c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Bulle, la radio de la Genêt avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec Real Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Beauvais près d'Agen. Zone La Motte Maniaque et sur real-chocolat.com. Real Chocolat fait naître la gourmandise.
Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot et Garonne sur lucien-georgelin.com.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Bulle, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et je suis donc très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission inédite de Chut, on écoute la télé, l'hebdo, comme tous les lundis. Eh bien, on va parler musique, cinéma, télévision, et on va commencer télévision dans quelques instants avec une grande spéciale du téléfilm Les Mystères des Majorettes qui sera diffusée samedi soir sur France 3. Le réalisateur Lorenzo Gabriel sera notre invité et nous aurons le plaisir d'accueillir également Alexandre Varga et Lucia Pasaniti qui ont été deux des héros du téléfilm Les Mystères des Majorettes. Donc, je rappelle, diffusion samedi sur France 3, on en parle dans quelques instants. Et puis on aura le plaisir de recevoir également Elsa Lunghini pour Parole contre Parole qui sera diffusée mercredi sur France 2. Nous aurons également le plaisir de recevoir Nawel Madani, elle fait le 25e rendez-vous en Terre Inconnue qui sera diffusé demain soir sur France 2. Et Nawel va s'en aller du côté de la Mongolie et va nous raconter son périple. Et puis nous terminerons l'émission avec le chanteur des Stentors Mathieu Sempéré qui sera notre invité exceptionnel et nous parlera des projets des Stentors et de lui bien sûr également en solo avec notamment sa reprise de Johnny Hallyday Que je t'aime qu'on écoutera tout à l'heure. Vous l'avez compris, c'est un programme chargé qui nous attend encore une fois. On va démarrer notre spécial Les Mystères des Majorettes dans quelques instants, mais juste avant ça, voici les audiences de la semaine dernière. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Et on passe tout de suite en revue donc nos audiences de la semaine dernière. Avec lundi, pour commencer, eh bien 20 ans d'écart sur TF1 qui arrive en tête avec 4 287 000 téléspectateurs et 17,8% de part de marché. Juste derrière, il y a Meurtre au Paradis sur France 2 avec 3 477 000 fidèles. La série réunit 14,8% du public. Secret d'Histoire fait un beau score avec 10,5% de part de marché et plus de 2 500 000 téléspectateurs au coude à coude avec M6 qui réunissait les 25 moments inoubliables de la France, un incroyable talent devant 2 427 000 fidèles de l'émission. Mardi, il y avait Harry Potter et le prince de sang mêlé, c'était sur TF1 avec un très gros score, 6 510 000 téléspectateurs pour 29,6% de part de marché. C'est un gros score également pour France 3 et Tandem avec 21% du public et 5 605 000 téléspectateurs. La série enchaîne les records d'audience. Du coup, eh bien les autres chaînes se partagent les miettes. M6 se contente d'1 567 000 téléspectateurs pour sa pièce de théâtre L'Invitation et France 2 pour son magazine Cash Investigation sur les différences de salaire entre les hommes et les femmes se contente seulement d'1 374 000 téléspectateurs et 5,8% du public. Mercredi The Resident sur TF1 qui marche toujours autant avec 4 270 000 téléspectateurs pour 17,4% de part de marché. C'est toujours une très belle saison pour Top Chef qui réunit 3 700 000 téléspectateurs pour 15,9% du public. La rediffusion de Deux Gouttes d'eau sur France 2 réunit 3 662 000 téléspectateurs au coude à coude du coup avec M6 et un score correct pour Déraciner des ailes sur France 3 avec 2 719 000. Et puis Cassandre arrive en tête sur France 3 jeudi dernier avec 19% de part de marché, 4 368 000 téléspectateurs. Du côté de TF1, eh bien c'est deuxième avec Star 80, 3 719 000 téléspectateurs seulement et 16,8% du public. Et puis un final correct pour Why Women Kill avec 2 552 000 téléspectateurs et 11% du public. Déception pour Le Grand Échiquier de France 2 cependant avec seulement 1 276 000 téléspectateurs et 6,8% de part de marché. Vendredi, sans surprise, c'est toujours Koh-Lanta qui est au top de sa forme et qui arrive en tête des audiences, suivi par Candice Renoir. Comme tous les vendredis, ça se répète.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on va donc démarrer maintenant notre spécial Les Mystères des Majorettes, le film tourné en Nouvelle-Aquitaine du côté de la Charente-Maritime et qui sera diffusé donc samedi soir à partir de 21h05 sur France 3. Une production flash film et on a justement le réalisateur pour commencer. On va développer cette spéciale avec Alexandre Varga et Lucia Pasaniti également dans quelques instants. Mais on démarre donc avec Lorenzo et Gabriel, le réalisateur. Bonjour Lorenzo.
Bonjour.
D'être avec nous après cette croisée sur les mystères du Bois Galant, déjà tournée en Charente-Maritime. On se retrouve sur ce nouveau projet de Flash Film Production et de Sylvette Friedman avec cette nouvelle histoire. Qu'est-ce qui t'a plu déjà sur ce projet?
Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça se passait autour de l'univers des majorettes. Et j'ai commencé à m'intéresser aux majorettes, j'ai regardé des documentaires sur les majorettes, et j'ai trouvé ça très intéressant, l'esprit d'équipe qu'elles ont, l'envie de s'élever par ce sport, l'envie de toucher le cœur des gens. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a intéressé dans le projet. Parce que l'histoire, c'est on retrouve une majorette morte dans une glacière, dans la glacière de Brouage, qui est un vieux bâtiment qui servait à conserver en été les denrées qui devaient être fraîches ou pour y mettre des pains de glace. Et donc l'histoire tournait autour d'une majorette qu'on retrouve dans cette glacière. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu dans le projet.
Alors poser ces caméras sur Brouage, sur cette citadelle fortifiée, qui est on va dire un des plus beaux villages de France, le tournage a dû être plutôt être sympa là-bas.
Ah oui, c'est très sympa, c'est un lieu qui est vraiment magnifique. C'était un peu compliqué d'y tourner parce que effectivement, il y a des touristes qui viennent, etc. On a dû bloquer des rues, on a dû se débrouiller pour que ça rentre dans l'histoire, mais le lieu est vraiment extraordinaire et visuellement, c'est très très payant.
Alors il y a eu plusieurs endroits de tournage en Charente-Maritime. Il y a eu l'île d'Oléron, il y a eu une partie du tournage aussi en Charente.
Oui, il y a une partie du tournage en Charente, près de Marennes. On a fait plusieurs décors, un peu ici et là, en fonction de ce qu'on trouvait pour les décors. Moi, j'adore tourner en Charente, Charente-Maritime, parce que la lumière est magnifique, les paysages sont extraordinaires. Donc voilà, visuellement, ça sort toujours bien. Quand j'avais fait les Mystères du Bois Galant, j'étais très très content du résultat. Et en plus, on tourne en septembre, la météo est extraordinaire. Donc voilà.
Alors un mot sur le casting évidemment qu'on va retrouver dans ce film et les nombreux comédiens que tu as pu diriger.
Alors il y a Isabelle Vitari que j'aime beaucoup, qui joue le rôle de Claire, une des enquêtrices, capitaine de gendarmerie. Et il y a Alexandre Varga qui joue le criminologue qu'on lui impose pour cette enquête. Et c'est un duo mi-comique, mi-dramatique et ils vont se révéler des choses à travers le film. Il y a également Michel Moretti, il y a également Marie Bunel, il y a Jean Del, enfin une pléiade d'acteurs, je suis très content d'avoir.
Alors Lorenzo, est-ce qu'on peut imaginer des suites? Parce que je sais que la politique de France 3 c'est de faire des unitaires, mais il y a des suites qui commencent à se développer sur certains mystères. Alors est-ce qu'on peut imaginer un jour Sarah Mortensen, Olivier Sitruk se rassembler sur un mystère du Bois Galant 2 avec une nouvelle enquête?
On aimerait beaucoup. On en a parlé, on en parle à la chaîne. Ils sont pas contre, mais il faut trouver le bon moment, la bonne opportunité et surtout la bonne idée pour faire un scénario à nouveau autour de ce couple. Il faut dire que les Mystères 2, c'est une collection qui d'habitude a à chaque fois deux enquêteurs différents. Donc faire une suite d'une des enquêtes avec les deux enquêteurs qu'on a déjà, c'est possible, c'est en discussion, mais c'est pas encore fait.
Je suis sûr qu'il va y avoir des choses qui vont se passer et que vous allez pouvoir retourner bientôt sur nos départements et surtout sur notre région de Nouvelle-Aquitaine. On va terminer par ton plus beau souvenir de tournage. Quelle a été pour toi peut-être la scène que tu redoutais le plus à mettre en image là sur ce film, Les Mystères de Brouage?
Je pense que la scène que je redoutais le plus, c'est pas que je la redoutais, mais c'était la scène la plus difficile à faire, c'est la scène du championnat de majorette avec beaucoup de figurations, des chorégraphies de majorette, des actions de nos enquêteurs, de nos personnages et essayer de lier tout ça d'une manière réaliste et naturelle. Donc c'était une très grosse scène où je sais pas combien on était sur le plateau, on était très très nombreux avec la figuration, les majorettes, etc. Et donc ça demandait pas mal de préparation et de réflexion avant de pouvoir la tourner.
Merci en tout cas Lorenzo. On va découvrir donc Les Mystères des Majorettes. Ça sera samedi soir sur France 3 et on va accueillir dans un instant Alexandre Varga et Lucia Pasaniti. Merci à toi Lorenzo.
Merci beaucoup.
Pour toi, victoire. On a retrouvé une majorette assassinée. Je me disais que ça pourrait être utile que David participe à l'enquête. C'est un bon criminologue.
Merci de m'avoir accepté à vos côtés.
Bah, j'ai pas vraiment eu le choix.
Pourquoi le meurtrier a mis le corps dans la glacière? Vous savez que c'est l'ancêtre du réfrigérateur.
Cette glacière, tout le monde peut y aller. Il n'y a pas de serrure sur la porte. Je leur ai dit qu'on ferait le championnat. Pour Flavie, vous comprenez? Parce que cette année, c'est notre tour. On doit gagner.
On va marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants avec Alexandre Varga et Lucia Passaniti. C'est notre spécial Les Mystères des Majorettes qui continue dans Chute. On écoute la télé. Alors surtout, ne bougez pas. À tout de suite.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. On écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on va donc tout de suite continuer notre spécial Les Mystères des Majorettes avec Alexandre Varga qui nous rejoint et qui est avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous incarnez David aux côtés de Claire dans cette enquête. Lorenzo vient de planter le décor un petit peu avec nous sur la découverte macabre de cette majorette dans une glacière. Première question que j'ai envie de poser à Alexandre, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet et qu'est-ce qui vous a fait dire oui finalement?
Bah, plein de choses. La première, déjà, c'est effectivement cette invitation de Lorenzo et de Sylvette et de France 3 sur ce scénario, puisque c'est un scénario qu'on m'a envoyé, donc que j'ai lu. Et c'est vrai que tout de suite, le personnage de David m'a plu. Il est assez différent des personnages que j'ai pu incarner jusque-là. Et en ce qui concerne David, on va dire que il est vraiment, on va dire, aux antipodes de ce que je suis. Et en ça me plaisait bien. Voilà.
Comment on pourrait le définir justement David ?
Alors David est issu d'une bonne famille. Il a fait des études assez longues qui l'ont amené à devenir criminologue. C'est quelqu'un d'assez sage en fait. Moi ce qui m'a touché c'est son parcours aussi, étant donné qu'il a eu quelques années auparavant un grave accident de voiture avec son ex-compagne, la mère de sa fille, qu'il élève maintenant tout seul et qui a 8 ans, qui s'appelle Victoire. Donc déjà c'est vrai que ce parcours assez dramatique, puisque il était donc lui passager au moment de l'accident, et donc c'est une sortie de route qui au final lui fait perdre sa femme, puisqu'elle décède dans l'accident. Donc lui est veuf et il élève sa fille tout seul. Donc c'est quelqu'un qui est assez cassé. Et donc déjà ça m'a plu d'incarner cette fracture, cette blessure profonde de l'âme. Après c'est cette rencontre avec Claire qui va le ramener un petit peu à la vie, puisqu'il va retomber amoureux, ce qui ne lui est pas arrivé depuis la mort de sa femme. Et d'ailleurs il y a une scène dans le film qui est assez touchante, où justement il se retrouve tout seul sur la plage et il sent que voilà, il est temps de passer à autre chose, et donc il enlève son alliance qu'il garde depuis toutes ces années, et il va finir par l'acheter dans l'océan. On sent vraiment qu'il est en train de tourner la page. Donc voilà, c'est ce qui m'a plu. Et puis ça me permettait aussi d'avoir un look un peu différent de ce que je fais d'habitude. C'est vrai que je suis soit le méchant, soit le policier. Voilà, un peu bad boy, un peu baroudeur.
Et là on rentre plus un peu dans la psychologie du personnage finalement et dans sa vie privée.
Oui, absolument. Puis ça m'a permis d'adopter un look un peu différent aussi. Voilà, très propre sur moi, bien rasé, des lunettes, côté un petit peu intello, ce que j'avais pas encore véritablement incarné. Donc c'était assez rigolo de me retrouver un peu dans la peau de ce personnage-là.
Alexandre, vous avez découvert un peu le monde des majorettes du coup avec cette histoire. Est-ce que vous aviez déjà vu peut-être des majorettes ou un spectacle de majorettes, ou est-ce que vous avez totalement découvert?
Ouais, non, j'en ai vu quand j'étais gamin. Ça m'est arrivé de voir des défilés de majorettes. Ça faisait un petit moment là que ça m'était pas arrivé, donc ça m'a ramené un petit peu à mon enfance, qui était assez sympa. Alors maintenant c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sportif, on appelle ça le turning bâton. C'est assez rigolo de voir le travail quand même qui est accompli de la part de toutes ces petites nanas. Et c'est sympa. En plus, assez original de se retrouver dans ce monde-là dont on parle pas beaucoup.
Et dernière petite question, la rencontre avec Isabelle Vitari.
Ah, bah c'est que du bonheur. Isabelle, c'est la joie de vivre. C'est un soleil très rayonnant, très solaire. Donc on rigole bien, même si c'est vrai qu'il y a des moments, on a des scènes qui sont assez dramatiques. Mais voilà, elle respire la joie de vivre. C'est un vrai plaisir. En plus, elle est une très bonne comédienne, donc... un vrai plaisir de jouer avec Isabelle.
Bon Alexandre, en tout cas merci d'avoir été avec nous. Les Mystères de Brouage, c'est samedi sur France 3. Ne rate pas bien évidemment, c'est le film de la semaine à ne pas rater. Merci et à très bientôt.
Merci. Et puis voilà, je voulais faire un coucou aussi à Lorenzo, avec qui est le réalisateur de ce film, et
C'est vraiment une vraie rencontre. On n'avait jamais travaillé ensemble et voilà, je tiens à le saluer et à le remercier pour sa confiance. Parce que c'est un vrai plaisir de travailler avec Lorenzo. Voilà.
Nous aussi d'ailleurs, on aime toujours l'avoir dans notre émission aussi. Voilà, il est avec nous il y a quelques instants. Il est déjà reparti parce que plein de projets évidemment l'attend aussi. Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Je voulais quitter le club, elle voulait partir. Elle avait peur.
Si tu quittes pas du village, t'es morte.
Elle est morte à cause de moi.
Vous voulez me mettre sur la liste des suspects?
Vous voulez pas rester dîner avec nous?
Et vous avez jamais pensé à refaire votre vie, comme on dit bêtement? Vous avez une idée de qui pouvait lui en vouloir?
Peut-être Lorraine.
La nuit dernière, elle est rentrée, il devait être 4h du matin, c'est ça?
J'ai des partiels en fait dans 15 jours, donc je suis pas rentrée à 4h du matin.
Et ça vous gêne pas de prendre la place de capitaine de votre copine morte?
La vie m'a demandé de la déposer chez Madame Lee. Elle voulait voir Zao. Un crime.
Zao n'avait absolument aucune raison de la tuer.
Il ment tout le temps!
Je pensais que c'était des jalousies entre majorettes.
Eh bien, on va le voir en tout cas, ce film, Les Mystères des Majorettes. Ça sera samedi sur France 3. Merci Alexandre d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et qui va être rejoint maintenant par Lucia Passaniti, qui est avec nous. Lucia qui joue le rôle de Lorraine, et une majorette qui a certainement beaucoup de secrets. Et va-t-elle tous nous les révéler? C'est ce qu'on va voir samedi. Bonjour Lucia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Lucia. Alors une majorette, c'est ce qu'on disait, qui a certainement beaucoup de secrets, qu'on va découvrir tout au long de ce film. Et déjà moi j'aimerais en savoir un petit peu plus avec toi sur cette préparation, puisque est-ce que tu avais déjà manié un peu le bâton de majorette avant ce film?
Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. J'ai eu 3 semaines d'entraînement. En fait j'ai eu 8 entraînements d'abord de pole dance, et après j'ai appris du coup le twirling. En réalité c'était du twirling qu'on faisait. Avec d'abord Alan Révillon, qui a été un champion de France. Et ensuite, je me suis mise à m'entraîner avec toute l'équipe avec qui on a tourné.
Alors, c'était le twirling de Saint-Aignan hein, qui est entré.
Oui, et c'est Marianne Proux qui, du coup, a créé toute la chorégraphie et qui nous a repris, Jeanne et moi, pour finir de nous entraîner.
Est-ce que ça donne des envies, peut-être, d'avoir fait des majorettes plus tôt, ou est-ce que ça t'a donné l'envie peut-être d'en faire un petit peu après? Du twirling bâton plutôt de moi.
J'ai été très heureuse d'apprendre à en faire. Après, je continuerai pas. C'est pas fait pour moi du tout.
C'est technique hein.
C'est très technique et on se fait très mal, on passe son temps à se taper avec ce bâton, mon dieu. Voilà. Non, et je pense qu'il faut que ce soit une passion d'enfant. Moi, ça a pas été le cas pour le coup. C'était une très belle expérience, c'est très intéressant, mais je continuerai pas.
Alors comment on pourrait la définir, Lorraine? Raconte-nous.
Lorraine, elle est très humaine, très 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 humaine. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'appréhender, comme le personnage d'Alexandre le dit bien, elle a du tempérament, la gamine. Et non, c'est agréable, c'est pas une nana qui a une histoire facile du tout. Et en même temps, elle pourrait devenir mauvaise et c'est pas le cas.
Est-ce que t'as un souvenir particulier de tournage dans notre région de Nouvelle-Aquitaine et en Charente-Maritime? Particulièrement, puisque ce film a été tourné en partie dans la belle cité de Brouage.
Ah bah oui, j'ai tout le souvenir de tout le tournage dans la région.
Ouais, il y a un endroit qui t'a marqué plus qu'un autre.
Brouage, j'ai trouvé ça très beau. C'est pas l'endroit où j'ai le plus été moi, mais j'ai trouvé ça vraiment très beau. La citadelle, c'est impressionnant quoi. Il y a un truc qui est très fort.
Est-ce que t'as une scène, pour le coup, Lucia, qui reste gravée sur ce film, sans trop nous en révéler, évidemment, si spoil un peu cette scène-là, mais est-ce que tu as une scène que tu te souviens encore aujourd'hui, par exemple, 6 mois après le tournage?
J'en ai plusieurs. J'ai notamment celle du pole dance, déjà parce que j'ai eu envie de vomir toute la journée avant, et que ça a été super parce que ça m'angoissait énormément, et qu'en fait, j'étais juste entourée d'une équipe extraordinaire qui m'a mis très à l'aise, alors que j'étais à peu près à l'état liquide au moment de le faire.
Vous allez tous avoir les coulisses comme ça. Quand on va te voir la tête en bas sur la barre de pole dance dans le film, on y pensera maintenant.
Voilà.
Merci Lucia d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Les Mystères des Majorettes, on ne le rate pas, c'est cette semaine évidemment sur France 3. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Trouve-toi ! Victoire !
On a retrouvé une majorette assassinée.
Je me disais que ça pourrait être utile que David participe à l'enquête. C'est un bon criminologue.
Merci de m'avoir accepté à vos côtés.
Là, j'ai pas vraiment eu le choix.
Pourquoi le meurtrier a mis le corps dans la glacière? Vous savez que c'est l'ancêtre du réfrigérateur.
Cette glacière, tout le monde peut y aller. Il n'y a pas de serrure sur la porte. Je travaillais qu'en frais championnat. Pour Flavie, vous comprenez?
Parce que cette année, c'est notre tour. On doit...
gagné.
Allez, c'est un coup de cœur télé avec un grand plaisir aujourd'hui, et bien que l'on va évoquer le 25e rendez-vous en terre inconnue qui sera diffusé et bien demain soir sur France 2 avec Nawel Madani qui va partir en Mongolie, et justement pour revenir sur ce voyage et nous donner l'eau à la bouche en quelque sorte, c'est Nawel qui est justement notre invité. Bonjour Nawel.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, je suis très heureux de t'avoir Nawel depuis C'est tout pour moi. On s'était vu il y a 3 ans pour ton super film d'ailleurs quand il passera à la télé. Moi je vous conseille vraiment d'aller le voir, on avait passé un très très bon moment, je me rappelle, avec toi et Ludovic Colbeau-Justin à l'époque.
Oui, c'était super, une super aventure, et merci pour le soutien hein, parce que vous nous avez vraiment soutenu et le film a pu être vu par beaucoup de gens et des gens de chez vous et grâce à vous, donc merci de... être à chaque fois là pour un deuxième rendez-vous et j'espère que ce voyage va autant vous faire plaisir que moi il m'a touché quoi.
Alors moi j'ai eu la chance de le voir avant tout le monde, ce rendez-vous en terre inconnue, le 25e du nom. Alors quand t'as rencontré Raphaël de Casabianca, est-ce que vous étiez déjà vu pour préparer un petit peu l'émission ou c'était vraiment la première fois que tu le voyais Raphaël?
Non, on se voit, on discute, on remplit un questionnaire. On fait des essayages parce qu'ils vous font essayer des bikinis, puis la grosse doudoune. On passe par tellement d'habillages pour des différents climats. Et là, j'avais aucune idée où est-ce qu'on m'emmenait. J'essayais de questionner, mais ils sont d'une discrétion à la hauteur du FBI. Donc, j'essayais de savoir. Mais comme je savais que Estelle Lefebvre était partie au Kenya, je me suis dit, ils vont pas m'emmener deux fois des personnes en Afrique. Donc, je me doutais qu'on m'emmenait dans le froid.
Ah oui, donc là, en fait, ils te font essayer des doudounes et des maillots de bain pour noyer le poisson, quoi, en gros.
Complètement. Mais vraiment de tout. Je suis passée du kawé au cycliste. Je me disais, mais où est-ce qu'on m'emmène? Donc, ils brouillent pas mal les pistes. Et après, voilà, entre moins 25 et 35 degrés, j'ai atterri en Mongolie. Et je pensais détester le froid. Et je suis tombée amoureuse de ce paysage... voilà, qui est juste surprenant et on se retrouve tout petit face au monde en fait.
Alors, je crois que tu as ressenti une forte émotion quand Raphaël t'a dit justement dans l'avion, quand il t'a annoncé que vous partiez en Mongolie. Je pense que la première pensée a été pour ton papa.
Oui, bon, parce que mes parents n'ont pas eu le privilège de beaucoup voyager dans leur vie. Ils se sont énormément sacrifiés pour leurs enfants. Et mes parents, à part l'Algérie, n'ont pas énormément... voyager et malheureusement aujourd'hui mon père a des problèmes de santé et je sais que il a toujours voulu connaître le Tibet, la Mongolie et donc c'est vrai que même si ma mère aussi mais elle a encore la possibilité de voyager donc j'ai voyagé pour mon papa. C'est vrai que tout de suite j'ai pensé à lui.
Qu'est-ce qui t'a frappé en premier en arrivant en Mongolie à part le froid peut-être?
Qu'est-ce qui m'a frappé? Bon, on a 4 jours de voyage, donc avant d'arriver vraiment face aux steppes, on passe par la capitale. Mais ce qui m'a frappé, c'est de voir des gens en legging traverser la rue à moins 35 degrés. J'étais choquée par la résistance, en fait. Et puis la pollution, ils se chauffent au charbon, donc il y a un nuage de pollution au-dessus de la ville. Donc je m'attendais pas du tout à ça. Et après, seulement, on a fait quasi 9 heures de voyage en voiture pour arriver à cette magnifique... pleine, où là j'ai découvert les plaisirs du froid, je dirais vraiment. Parce que aller couper du bois, monter sur un yak sauvage, faire du cheval, traverser les steppes, c'était quelque chose de fantastique.
Et la vie, la vie dans une yourte?
La vie dans une yourte, c'est un peu la même vie que j'ai quand je vais en Algérie et qu'on dort à neuf dans une chambre. C'est pas très, pour moi, la promiscuité n'était pas un obstacle. Je suis d'origine maghrébine, mes parents sont d'origine algérienne. Quand je pars en vacances avec mes cousins et mes cousines, on a l'habitude de dormir pratiquement tous dans la même pièce déjà depuis tout petit. Donc je n'ai pas du tout cette chaleur-là que j'ai retrouvée qui a fait comme quoi je me suis tout de suite sentie chez moi. Cette famille chaleureuse, bienveillante, généreuse, d'une tolérance rare, même si c'est des gens qui ne voyagent pas beaucoup. Ils ont une ouverture d'esprit quand même qui est extraordinaire. Ils ont des valeurs justes et nobles. Et j'espère avoir pris un bout de ça avec moi aujourd'hui.
On va écouter un petit extrait de ton rendez-vous en terre inconnue, juste avant de revenir avec toi justement sur l'accueil de cette famille, que je crois on peut tous tomber amoureux de cette famille, parce que tellement ils ont l'air accueillants, chaleureux malgré le froid. On peut être émerveillé par leur courage, de ce que j'en ai vu dans le film. En tout cas, vous verrez demain soir. On va tout de suite passer un petit extrait, écoutez.
Un rêve de gosse, quoi. Faire du cheval avec ce décor-là. Mais regarde ! On dirait que c'est faux. Tellement c'est magnifique. Mais si c'était le Père Noël.
Au pays de l'éternel ciel bleu, Nawal Madani est sur un petit nuage. Emmené par Raphaël de Casabianca, un nouveau rendez-vous en terre inconnue, bientôt sur France 2.
Voilà, 25e rendez-vous en terre inconnue demain soir à 21h05 sur France 2 avec Nawal Madani qui s'envole donc pour la Mongolie dans ce 25e rendez-vous. Alors, l'accueil de cette famille, moi je l'ai trouvée tellement chaleureuse. Tu as dû t'attacher à eux, mais tellement vite. On a bien vu, c'est un crève-cœur de les quitter à chaque fois, ces tribus-là.
Ah oui, vraiment, c'est... Mais même, ce n'est pas des gens qui ont énormément de visites. Là où ils se situent, ils sont isolés. Je pense qu'il y a un habitant tous les 10 kilomètres. Donc quand on vient chez eux, pour eux, c'est un honneur. Et c'est un cadeau, vraiment, c'est un cadeau. Et qu'on s'intéresse à leur vie, à leur quotidien, à leur bataille. Une bataille, ils affrontent des obstacles. Vraiment, j'admire le courage de Dol, qui est le papa, a envie d'être le meilleur pour lui et pour ses enfants. Et c'est moteur. Et du coup, c'est clair que cette force qu'ils émanent, parce qu'ils sont tous courageux, de la plus petite qui essaye d'alléger les tâches que son papa a à faire tous les jours, jusqu'à la plus grande qui connaît le sacrifice que font leurs parents pour qu'elle puisse étudier à la capitale. Donc j'ai été admirative par leur combativité, par leur force mentale et l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, c'est des amoureux de la vie. Ils sont encore émerveillés par le paysage. Moi, je pensais qu'à un moment donné, quand tu te réveilles tous les jours face aux montagnes, ben, tu n'y regardes plus, quoi. Pas du tout. Eux, vers 17h, ils se préparent à aller chaud et ils s'assoient pour regarder le coucher du soleil. Et je me disais, mais... C'est fou d'être encore émerveillé par des choses aussi simples. Et nous, on passe à côté de tout ça hein, aujourd'hui. Alors que je pense qu'on en a vraiment besoin. Donc moi, j'ai été admirative par leur force de caractère et par leur simplicité et leur gratitude. Donc oui, j'ai vraiment énormément appris en l'espace de 2 semaines parce que tout est exacerbé, forcément. On essaie de profiter un maximum et d'emmagasiner un max de souvenirs parce qu'on a une... sorte de deadline. On sait que c'est périodique qu'il y a vraiment... On sait qu'on va se dire adieu dans peu de temps.
Et oui.
Donc on profite un maximum. On parle de beaucoup de choses. Donc tout est accéléré. Donc on vit tout à vitesse... oui, bébé prime. Quand moi, j'étais là, j'essayais d'apprendre, de discuter, d'échanger. Parce que je le savais, il y avait un compte à rebours qui était donné et ça dès le départ.
T'as pu échanger avec eux aussi sur... Bah, toi, ce que tu apportes au public, à ta façon de les faire rire, de leur provoquer des émotions, est-ce que tu as pu leur en parler de tout ça? Est-ce que tu as pu échanger un peu là-dessus?
Bah, moi, je suis venue en... Franchement, c'était eux qui m'intéressaient le plus. Donc, je n'ai pas cherché à exposer ma vie. Puis, en plus, je vais pas vous mentir, j'avais honte de leur parler de mes challenges. Or que j'avais un homme face à moi où son épreuve la plus dure, c'est d'affronter l'hiver. Ouais. Qui est le dog qui peut tuer tout son bétail, il peut se retrouver sans rien et c'est ce qui nourrit sa famille. J'étais tellement admirative que j'étais plus à l'écoute que mais ce qui les a étonnés, je pense, c'est la faculté d'adaptation qu'on a eue avec Raphaël, le respect qu'on a eu pour leurs convictions religieuses, leurs croyances, et je pense qu'ils étaient très ouverts d'esprit et ils ont été aussi très surpris par notre ouverture d'esprit et l'attachement qu'on avait les uns pour les autres. Mais après, c'est clair que mon histoire les a énormément touchés parce que bon, je leur ai expliqué, j'avais été brûlée au 3e degré étant petite. Et c'est ce qui m'a rendue ce que je suis aujourd'hui. Et que je voulais absolument rendre fiers mes parents. C'est sur ces principes-là qu'on s'est tout de suite entendu. Et on avait, même si on était finalement, si on était différents, ben on avait quand même pas mal de choses en commun et on avait les mêmes, oui, on avait les mêmes valeurs. Et c'est là où ça nous a étonnés. de se dire, bah oui, mais en fait, on se ressemble, l'air de rien.
Comme quoi, mine de rien. Effectivement, rendez-vous en terre inconnue, 25e rendez-vous, ça sera donc demain soir avec toi, Nawel, à 21h05. Voilà, je pense que tu vas nous provoquer pas mal d'émotions dans ce rendez-vous en terre inconnue, donc ne le loupez pas. Voilà, regardez-le. Juste avant de se quitter, Nawel, petit mot évidemment sur tes projets. Est-ce que tu as envie de repasser à la réalisation? Est-ce que tu prépares un deuxième film après le succès de C'est tout pour moi?
Complètement, je travaille sur mon spectacle, mon film et ma série. Donc beaucoup de boulot, ce confinement a été productif pour moi et j'espère... revenir pour 2021 sur scène et le film dans la foulée.
Et ben voilà, et on sera là pour te soutenir bien évidemment.
Ben, je m'y compte bien maintenant que je me suis attachée à vous.
Nawel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te souhaite plein de belles choses en tout cas et on va se quitter avec un petit extrait de ce rendez-vous en terre inconnue. Je rappelle donc demain soir 21h05 sur France 2. Merci Nawel, à bientôt.
Merci à vous, je vous embrasse, prenez soin de vous.
Nawel, nous partons en Mongolie. Là, vous avez le regard d'une petite enfant.
Ah oui, attends, la Mongolie.
C'est quoi les images
hier,
de la Mongolie?
Hier, j'étais à Barbès. Tu vois ce que je veux dire? Je faisais mes courses. Et là,
La Mongolie, c'est un pays fascinant parce qu'il est en pleine mutation. Pour bien comprendre l'évolution de ce pays, on va rencontrer une famille qui partage sa vie entre modernité et tradition.
Allez, on va parler du téléfilm Parole contre Parole qui est diffusé mercredi sur France 2 avec Elsa Lugini qui est avec nous. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ça me fait très plaisir de te recevoir. Elsa, on va parler de cette jeune femme, de Laura, de cette jeune commissaire priseur qui voit sa vie basculer en une soirée. C'est quelque chose qui peut arriver aujourd'hui à n'importe quelle femme, mais c'est aussi une histoire de vengeance. Il y a tout plein de sentiments qui se mêlent dans cette histoire.
Oui, ça peut arriver à n'importe quelle femme. C'est une femme qui est installée professionnellement, qui est commissaire-priseur, qui fait un métier compliqué, et compliqué pour une femme, parce qu'il y a très très peu de femmes qui sont commissaires-priseurs. Donc elle a une force de caractère, elle a une force mentale, elle est... Là, c'est une femme libre qui a ses copines. C'est très Sex and the City, d'ailleurs, avec ses copines et tout ça. Elles sont toujours ensemble. Et jusqu'au jour où, voilà, il va y avoir ce drame-là où elle va se faire violer par un homme qui lui plaît au départ. Parce qu'il fait partie de son milieu social. C'est un homme qui est beau, qui est très séduisant, qui lui achète un tableau en plus très cher. Donc, voilà, elle est ravie. Et elle décide de passer une soirée avec lui. Et jusqu'au moment où il y a quelque chose qui va faire que ça bascule. Voilà, au moment où ils sont l'un et l'autre, l'un en face de l'autre, dans un début de préliminaire, il va y avoir un mot, une phrase qui va la refroidir et qui va faire qu'elle va se lever et qu'elle va avoir envie de partir. Donc elle lui dit que non, qu'elle n'a plus envie et lui ne l'entend pas de cette manière-là. Et c'est à partir de là où sa vie va basculer, c'est-à-dire qu'elle va commencer à vivre un cauchemar.
Là, évidemment, c'est parole contre parole. Hein. Le titre est bien dit, mais jusqu'au moment où il va y avoir aussi un drame dans la vie de cet homme et où il va être accusé aussi. Et là, ça risque de se retourner contre lui. Alors voilà, vengeance, pas vengeance, c'est difficile voilà, de faire des choix. Qu'est-ce qui t'a plu, Elsa, en premier, à la lecture du scénario?
C'est le fait que ça traite du viol et de la condition de la femme. Parce que c'est quand même ça aussi. Le sujet du film, c'est complètement ça. Et le fait quand une femme dit non, c'est non. Et que ça ne veut pas dire autre chose que non.
Voilà. C'est très tendance en ce moment, ça, d'en parler justement.
On a fait le film. Le film a été tourné avant que tout ça sorte, que l'affaire Weinstein sorte et tout ça. Donc là, ça tombe en plein dans une actualité brûlante hein, par rapport à ça. Mais ça fait longtemps que ça existe et c'est bien d'en parler. Et il faut que les femmes puissent parler, qu'elles puissent exprimer ce qui leur arrive. Et c'est vital, c'est essentiel. Et c'est ce qui m'a plu dans le scénario. C'était cette femme, son parcours, le fait que elle ait l'impression d'être suffisamment forte pour pouvoir affronter la situation et puis ça va s'étioler au fur et à mesure, elle va perdre pied et jusqu'au moment où voilà, elle va se rendre compte que c'est compliqué de s'en sortir toute seule.
Un beau casting hein, dans ce téléfilm, François Vincentelli, Patrick Ridremont, Sarah Martin, Julie Bargeton, Laure Marsac, voilà des noms très connus aujourd'hui en téléfilm ou en série. Tu es bien entourée.
Je suis très bien entourée, ça a été un bonheur de travailler avec eux. Il y a des gens que je ne connaissais pas et que j'ai découvert justement sur ce film. Non, ça a été une magnifique expérience qui était des fois compliquée, difficile, parce que c'est un rôle qui est fatigant à travailler. Mais ça a été un bonheur de travailler avec cette équipe-là et tout le monde a été d'une grande pudeur, d'une grande délicatesse. L'équipe technique aussi, voilà, c'était... tout le monde était impliqué en fait dans cette histoire.
Et des scènes qui ont dû être difficiles à tourner justement.
Oui, c'est vrai qu'une scène de viol, c'est jamais ce qu'il y a de plus rigolo à faire. Mais en même temps, avec François Vincentelli, j'étais en confiance. La scène, ça a été un choix du réalisateur aussi. Elle s'est faite pratiquement en dernier. C'est-à-dire qu'on l'a tournée à la fin du film. Donc c'était aussi important de pouvoir se connaître et que chacun puisse avoir une confiance les uns envers les autres pour être mieux, voilà, pour que ça se passe bien.
Ce film est à voir, si ça peut éveiller justement voilà pas mal de certitudes et en même temps éveiller la curiosité. Venez voir ce téléfilm qui sera diffusé cette semaine sur France 2. Ça s'appelle Parole contre parole. Merci Elsa Luguiné d'être venue nous en parler. On t'embrasse et à très vite.
À très vite, merci beaucoup.
Et on va se quitter tout de suite avec la bande-annonce.
Bon, si on se faisait un petit resto ce soir.
Oui.
Non, moi je peux pas.
Et moi je suis prise.
C'est qui?
Ah, les curieux.
Vous vous doutez bien qu'en vous invitant ici, j'allais vous faire une proposition.
Jamais femme comme toi. Femme qui aime ça.
S'il te plaît, je voudrais passer.
S'il te plaît, reste.
Allez.
Reste là, reste.
J'ai porté plainte pour viol, Guillaume.
Tu sais ce qui va se passer? Ils vont interroger les clients du restaurant. Ils leur diront, on a vu deux amoureux se regarder dans les yeux toute la soirée. Ils mettront leur nez dans ta vie, dans celle de tes copines. Ils se rendront compte que tu es une fille libre, c'est-à-dire une fille facile. Ce sera ta parole contre la mienne.
Oh, c'est horrible ce qui est arrivé. La femme de Guillaume Miller a été assassinée cette nuit.
Chérie ?
Monsieur Miller a déclaré être en votre compagnie hier soir. Confirmé ?
Elle a dit quoi ?
Laura Wagner ne confirme pas votre alibi.
Allez, ça fait toujours du bien, un coup de bronzé. Eh bien ça c'est pour jeudi sur TF1 21h05, c'est le premier tome des bronzés avant de découvrir les bronzés font du ski la semaine prochaine. Eh bien là on boude pas notre plaisir, Jean-Claude Duss dans toute sa splendeur, on écoute.
C'est quoi mon prénom? Parce que moi c'est Jean-Claude, mon prénom. Elle est fraîchée de me répondre.
Non mais ça va pas bien derrière.
Il a un malaise, le peignoir.
Ça tape là, d'un coup. J'aime baigner.
Les Bronzés à 21h05 dans Ciné Jeudi sur TF1.
Et vendredi sur Arte, je vous conseille le très bon téléfilm intitulé Ramdam, inédit avec Lies Salem qui va se retrouver imam contre son gré. Voilà, une histoire familiale, une comédie divertissante qu'on pourra suivre donc vendredi à partir de 20h50 sur Arte. Voici la bande-annonce.
Vous êtes élu à l'unanimité, mon fils.
Vous vous rendez compte, vous êtes notre nouvel imam. On a tous voté pour vous.
C'est une plaisanterie.
Je crois que t'as pas bien compris ce qui se passe. Il y a le conseil municipal qui se réunit pour décider du sort de notre mosquée.
Qu'est-ce que tu veux faire à la mosquée en vrai, toi? Tu veux faire un loto, un petit buffet, du halouf, du vin rouge?
Mais moi, je suis juste un professeur d'histoire, c'est tout.
Imam malgré lui. Ramdam, une comédie halal. À voir vendredi à 20h55 sur Arte.
Indiscrétion, scoop.
Scoop.
News. Tout de suite, l'infomédia.
Et voici les titres de l'info télé que l'on va tout au long de la semaine vous distiller dans Chute, on écoute la télé, la quotidienne. On va vous parler notamment, après un mois d'interruption, la suite de The Voice sera diffusée à partir du 6 juin prochain sur TF1 avec la demi-finale en direct et de nouvelles règles qui vont déstabiliser bien beaucoup de monde. On vous développera ça dans la semaine. Et puis à l'occasion de la fête des mères, la chaîne Sister proposera une programmation spéciale tout au long de la journée. Ça sera le dimanche 7 juin qu'à l'occasion de la fête des mères, Sister les mettra à l'honneur avec toute une programmation qu'on vous détaillera demain dans Chut, on écoute la télé, la quotidienne. Et puis mardi 9 juin à 21h15, C8 diffusera ensemble à l'Olympia une grande soirée musicale avec de nombreux artistes. Ça sera 21h15 que C8 diffusera donc ensemble à l'Olympia avec une soirée musicale depuis la salle mythique de l'Olympia où de nombreux artistes seront présents à l'événement. Ils sont en train d'enregistrer actuellement les uns après les autres cet événement. Tous les noms des artistes évidemment et le programme de cette grande soirée. On vous détaille tout ça mercredi dans Chut, on écoute la télé, la quotidienne. Et puis tout le monde joue avec la France le 9 juin en direct sur France 2 avec Nagui et Stéphane Bern ou un quiz géant pour jouer avec les idées reçues que l'on a tous sur la France et son patrimoine, qu'il soit culturel, gastronomique, architectural ou encore historique, et vous donner des idées pourquoi pas pour visiter la France cet été. Et puis la mini-série inédite Romance sera programmée dès le 10 juin sur France 2. On vous détaille le synopsis bien évidemment et le casting vendredi dans Chut, on écoute la télé, la quotidienne. Et puis enfin dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin à 23h40 sur France 2, à l'heure où toutes les salles de concerts et les festivals ont été contraintes de baisser le rideau pour une durée encore indéterminée, le rendez-vous basique propose de retrouver Claudio Capéo en concert sous une forme unique et originale. Pendant une heure, entouré de ses musiciens, il interprétera en live ses plus grands tubes sur une scène spécialement conçue pour l'occasion. Durant cette captation exceptionnelle et grâce à un dispositif interactif, il dialoguera et se racontera comme il l'aurait fait sur scène face aux spectateurs, conservant ainsi ce lien si fort qui le lie au public. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis on va marquer une petite pause et on va se retrouver dans un instant puisque là on parlait musique, hein, on est d'accord ? Eh bien on va continuer à parler musique dans un instant avec Mathieu Sempéré d'Estentor qui nous rejoint. Alors surtout ne bougez pas, on revient juste après ça, tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Et c'est notre dernière partie musicale de Chut, on écoute la télé aujourd'hui avec Mathieu Sempéré d'Estentor qui est en ligne avec nous et on va parler musique et ça fait du bien dans ce monde un peu encore à peine en déconfinement actuel que la musique eh bien prenne cette place importante puisque Mathieu n'a pas chômé pendant ce confinement et va nous en parler. Alors Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors je disais, on va parler musique, évidemment Mathieu, avec les Stentors, tes comparses, avec lesquels tu es en train de préparer un très bel album pour la fin de l'année. Et surtout bah, des reprises de Johnny aussi, ça va être la grosse actualité des Stentors pour cette fin d'année avec un album inédit. Beaucoup de titres, beaucoup de reprises et en même temps eh bien un hommage aux 10 ans, hein, 10 ans déjà des Stentors. Hein.
Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs choses. Bien évidemment, on a hâte tous de retrouver les scènes. Donc ça, on ne peut que le dire et le redire, donc le public. Et on avait décidé de sortir un album, l'album des 10 ans. Ça fait 10 ans que le public nous suit. Et là, alors, pour nos disques, les écoute, mais également nous suit en spectacle. Et on s'est dit que pour remercier ce public toujours présent, toujours fidèle, nous allions sortir un album complet avec pas 30 minutes de musique, mais le maximum de musique. Donc il y aura au moins 20 titres. Il y aura des titres offerts, il y aura des titres revisités que nous avons déjà chantés, qui seront offerts, et puis il y a bien sûr des titres inédits, des titres que nous avons composés, des titres que nous avons toujours voulu chanter, et que nous n'avons jamais mis sur aucun des albums qui étaient des albums à thème. Et puis, il y aura en effet trois titres dédiés à Johnny Hallyday, donc Johnny classique, parce que le prochain spectacle des Stentors, la prochaine création, c'est une tournée bah, qui a été repoussée, bien évidemment, qui partira en 2021, donc à partir de janvier. Avant, on a une tournée de Noël, et cette tournée Johnny partira à partir de janvier, Johnny classique, c'est-à-dire les Stentors avec des voix lyriques reprennent ce répertoire de cet immense ténor, parce que Johnny était ténor, bien évidemment, de cet immense ténor qu'est Johnny Hallyday. Toutes ces musiques incroyables que nous avons un immense plaisir à chanter avec nos voix lyriques. Et l'album réunira de la chanson française, et un clin d'œil, bien sûr, à tous les albums que nous avons, et tous les thèmes que nous avons comme ça, évoqué à travers les 7 premiers albums et le dernier clin d'œil sera un clin d'œil à la scène et cette tournée de Johnny Hallyday.
Alors en plus il y aura 2 dates hein, normalement dans notre région du côté de Bressuire, hein, le 30 octobre et le 14 décembre à l'île d'Oléron, au château d'Oléron précisément où vous pourrez bien venir chanter Noël et en même temps Johnny. Est-ce que ça crée des problèmes de droits ? Est-ce que les reprises pour l'instant vous avez dû demander les droits pour chanter les chansons de Johnny ? Comment ça s'est passé ?
Non, parce que Johnny n'est pas le compositeur, ni l'auteur. Donc, c'est-à-dire, Johnny est interprète. Il n'y a pas à demander droit. On peut chanter, chacun peut chanter du Goldman s'il le souhaite, hein, ou du David Hallyday, puisque David a écrit beaucoup de titres. Il y a des droits, bien évidemment, sur tous les titres, comme tous les titres que nous chantons. Voilà, il y a des droits qui reviennent aux auteurs et aux compositeurs dès que des sommes d'argent rentrent pour les productions. Voilà, ça s'appelle la SACEM. Donc, on paye, vous chantez, vous payez pour que les auteurs et les compositeurs puissent être rémunérés du travail qu'ils ont fait, du magnifique travail, puisque c'est des titres qui ont fait le tour du monde. Voilà.
Alors, moi, j'ai eu l'occasion de vous emmener en tournée avec nous, hein, sur des showcases. D'ailleurs, je pense qu'on recommencera ensemble à l'occasion de ce nouvel album. Mais Mathieu, moi, j'ai été surpris par l'amour du public pour vous et vraiment ce non-oubli. Et il est vrai que quand tu dis, voilà, on veut ressortir cet album justement pour remercier tous les gens de leur fidélité. Moi, j'ai vraiment été surpris de voir tous ces gens qui vous suivaient, qui étaient sans arrêt, derrière vous, qui vous soutenaient.
Oui, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir un public de fans, d'un public accroché qui suit les albums et qui suit l'évolution d'un groupe ou d'un artiste. Voilà, on est plutôt dans un temps de zapping. Donc voilà, j'aime cette chanson, hop, puis après on oublie qui l'a chantée, qui l'a interprétée, qui l'a écrite ou composée, encore plus, on n'en sait rien. Donc les auteurs et les compositeurs sont cachés, et puis on passe à notre artiste, et puis notre artiste, on est sur les plateformes, ça va très vite, et on n'a plus le temps de suivre et de partager la vie d'un artiste. C'est ce qu'ils faisaient les stars de l'époque. Voilà, un Johnny, puisqu'on en parlait, un Johnny a commencé à 16 ans, et puis jusqu'à la fin de sa vie, les gens l'ont suivi. Ces carrières-là ne sont plus possibles aujourd'hui, mais nous, en tant que groupe, les Stentors, nous remercions notre public, ça fait seulement 10 ans, mais 10 ans, c'est aussi énorme pour un groupe. Voilà, nous aussi, on a eu des tempêtes qui ont fait que le groupe est parti à 4, et puis on est 3 aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est une histoire de copains, c'est une histoire d'amitié et musicale. On a toujours envie de chanter ensemble, toujours envie d'être sur les routes, et on les reprendra dès que possible.
Mais je n'en doute pas. Et puis on va découvrir un titre que tu as enregistré toi justement, Johnny, qui s'appelle Que je t'aime évidemment. On va en écouter, c'est une version gypsy hein, de Que je t'aime.
Exactement, avec Mario à la guitare, une guitare gypsy, et voilà, mon ami de Montpellier, voilà, puisque moi je viens du Sud aussi, et on a voulu donner une version complètement différente, et j'en ai fait, pendant le confinement, j'avais plus de temps, j'en ai fait un clip qu'on peut retrouver sur YouTube notamment.
Eh bien, on en écoute tout de suite un extrait, Mathieu.
Quand ta bouche fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix, que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand tu te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, 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 que je t'aime.
Voilà, inoubliable Johnny, bien évidemment, avec ta voix lyrique à toi, puisque c'est en solo hein, que tu as enregistré ce titre pendant le confinement.
Ah oui, ils n'étaient pas là les autres, chacun chez soi. Donc là, celui-ci, je l'ai enregistré seul, voilà, comme j'ai sorti un album il y a quelques mois qui était sur la musique classique. Ce titre-là, j'ai pas pu le mettre dedans, voilà, c'est un titre que j'aime par-dessus tout, puisque ça s'appelle « Que je t'aime ».
Alors, il y aura deux passages hein, de toi en solo en Charente-Maritime en septembre, dans des petites salles du côté de Longèves le 18 septembre. Et le 19 septembre, tu seras dans l'île de Ré, à la Salle Vauban. Donc, deux rendez-vous pour venir applaudir Mathieu Sempere sur scène en solo, hein, sans les Stentors. Mais tu vas venir proposer, évidemment, eh bien un tour d'horizon de ton répertoire.
Tout à fait. Alors, ça ira évidemment du dernier album qui s'appelle Engrenage Symphonique. J'ai fait des chansons à partir donc de thèmes classiques. Donc, je reprends quelques notes jusqu'à 20 secondes de grands thèmes de Bach, de Beethoven, de Handel. J'en fais des chansons contemporaines, comme d'autres ont fait, comme le prélude de Bach qui avait été chanté par Morane, que j'interpréterai également. Et puis, voilà, de la chanson, on va dire, les plus grands tubes. Alors, je vais chanter de la chanson française, de l'opéra, de l'opérette, de la comédie musicale. Et puis, bien évidemment, donc, quelques chansons que j'ai composées. Et je serai accompagné de deux musiciens, champion du monde d'accordéon, qui s'appelle Aurélien Noël, puisque je les nomme, mes amis, et puis David Miralles Jouve, qui sera à la fois à la guitare et au piano.
Alors, il y a aussi un clip que tu as fait en confinement, que tu as réalisé. Alors là, il y a pas mal de monde hein, sur ce clip, sur le chant des partisans.
C'est un collectif, on est à peu près une petite vingtaine sur celui-ci. C'est un clip avec toute l'équipe des Stentors, tous les gens qui sont autour de nous, qui nous suivent et qui aident et qui font partie de l'équipe, c'est véritablement l'équipe, c'est le technicien son, le technicien lumière, le conducteur du camion, la community manager, etc. Et certaines personnes qui ont voulu, voilà, qui ont bien voulu chanter, prêter leur voix pour ce chant magnifique, ce chant des partisans, voilà, un chant de résistance, et parce que c'est un peu ce qu'on vivait et ce qu'on vit toujours face au virus. Et même si il est vrai que c'est le déconfinement pour la majorité des gens, il y a certains métiers, comme les restaurateurs et comme nous, producteurs et musiciens, qui sommes encore chez nous et qui nous pouvons exercer notre métier, qui est un métier de passion. Et donc, voilà, on est plus en déconfiture qu'en déconfinement.
Ouais, c'est un peu ça. Comment t'as réussi à continuer un peu à travailler avec tes comparses d'Estentor pendant ce confinement? Vous avez travaillé par vidéo interposée? Vous avez comment vous avez fait?
Oui. Bah on s'est beaucoup appelé pour continuer à avancer sur le programme des concerts. Alors bien évidemment, il a fallu annuler, repousser les dates, et puis essayer d'avancer sur la tournée de Noël, parce que là on a une tournée chaque Noël, chaque mois de décembre. Malgré ce, il faut y penser, il faut réserver des églises, des salles, il faut essayer de démarcher les mairies. C'est très compliqué parce qu'entre un virus et puis les changements de mairie et les élections qui ne sont pas faites, pour les artistes, on est plus que sur des œufs. Voilà, on est dans un autre monde flou, complètement flou, et pas flou artistique cette fois. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est continuer. Donc on s'appelait, puis on décidait de qui allait chanter quoi, ce qu'on allait faire, quelles étaient les harmonies. Et puis voilà, c'est pour pouvoir continuer à rêver et à avancer musicalement.
Alors comment tu t'es occupé, toi, Mathieu, pendant ce confinement? Est-ce que ça t'a permis aussi de faire des choses que tu n'avais pas le temps de faire d'habitude?
Oui, ce confinement m'a permis de faire certains points, de regarder un petit peu ce que j'avais commencé à travailler pour moi et pour l'Estentor, mais et que je n'avais jamais sorti. Donc on a tous l'Estentor avancé sur l'album. L'album qui sortira normalement en octobre, novembre, voilà, enfin fin d'année, on va dire, dernier trimestre. Et puis en solo, ça fait des années que je veux faire un album moitié classique, moitié chanson plutôt religieuse, donc des grands airs, on va dire, lyriques. Et donc voilà, j'ai commencé à m'atteler à ça, aux arrangements. Je me suis fait aider, bien évidemment, chacun chez soi, mais Internet permet ce type de réalisation. Voilà, j'ai commencé à travailler sur un autre album.
Eh bien écoute, on va écouter en tout cas le chant des partisans. Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Les Stentors continuent leur route. Nouvel album à venir en fin d'année. Des concerts dans notre région pour toi, Mathieu, en solo. Ça sera le 18 septembre à Longève et le 19 septembre à l'île de Ré, à la salle Vauban. Et on te retrouve avec les copains des Stentors. Ça sera le 30 octobre à Bressuire, au Bocapol, et le 14 décembre à l'île d'Oléron. Voilà, en espérant que d'ici là, évidemment, on puisse à nouveau se réunir. On t'embrasse, Mathieu. Merci à toi.
À bientôt, à bientôt, merci.
Et on écoute tout de suite, le chant des partisans repris par ce collectif.
Et nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères, la haine à nous tous et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Liberté!
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, encore du beau monde. Hein, dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le plaisir de recevoir Elisa du groupe LDJ qui viendra nous présenter donc le tout nouvel album qui sortira vendredi dans les bacs. Nous aurons le plaisir de recevoir Fred Bianconi également. Il joue Virgile dans Un si grand soleil. On va fêter avec lui, comme il se doit, le retour de votre série préférée sur France 2 à 20h40. Et puis des surprises, il ne va pas en manquer. On évoquera Les Éblouis, le film de Sarah Souko qui va sortir en VOD, plus plein d'autres surprises qui vous attendent.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain pour les quotidiennes aux environs de 7h20, 8h45 et 11h sur Radio Bulle. Pour l'hebdo, retour lundi prochain à partir de 19h. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chut, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Beauvais près d'Agen. Zone La Motte Maniaque et sur réal-chocolat.com. Réal Chocolat fait naître la gourmandise. Chut, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.